Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à cette édition. 11 présumés terroristes ont été abattus dans une embuscade tendue par les FDS et les VDP à Kizengori dans le Sahel, annonce faite par l'armée. Propos jugés offensants de l'ambassadeur de France au Burkina, Monique Ilikam, demande le départ sans condition et avec effet immédiat du diplomate. Inondation au Niger, les autorités font cas d'une dizaine de morts et plus de 16 000 sinistrés. Arrestation des 49 militaires ivoiriens au Mali, l'hypothèse des mercenaires avancés par Bamako est difficilement soutenable. C'est l'analyse que fait notre invité de ce jour. Il s'agit du professeur Ousseini Ili, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara. Je vous l'annonçais en titre, la lutte contre l'insécurité porte des fruits pour le FDS. Dimanche dernier, 11 présumés terroristes ont été abattus par des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie VDP à Kizengori dans la région du Sahel. C'était suite à une embuscade tendue aux terroristes. Mariam Soma pour plus de précisions.
11 présumés terroristes ont été abattus dimanche par des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie VDP à Kizengori dans la région du Sahel. L'armée et les supplétifs de l'armée ont tendu une embuscade aux terroristes. Le bilan établi par les opérations de ratissage fait état de 11 terroristes abattus selon le communiqué de l'état-major. L'armée explique que c'est en riposte à des actions de harcèlement perpétrées par des terroristes contre les populations de Kizengori dans le Yaga, les unités militaires de Seba en coordination avec les VDP de la localité ont tendu une embuscade aux terroristes lors de leur mouvement retour le 17 juillet 2022. En plus des présumés terroristes neutralisés, également, une vingtaine de motos, de l'armement et une importante quantité de munitions ont été récupérées, indique l'armée qui poursuit que des moyens de communication, du carburant et des vivres ont été saisis ou détruits. Le chef d'état-major général des armées a félicité les unités militaires et les VDP pour, dit-il, cette action décisive qui intervient après les succès tactiques enregistrés récemment lors de l'opération conjointe Coural entre le Burkina et le Niger. L'opération en question a permis de neutraliser 56 présumés terroristes selon l'état-major. Lundi, l'armée a annoncé avoir neutralisé au moins 83 présumés terroristes en un mois du 15 juin au 15 juillet 2022 dans des opérations dans la région du Sahel et du centre-nord.
Insécurité à toujours dans la région de l'Est. La question donc de l'insécurité est aussi d'actualité. 5 des 6 personnes enlevées mercredi 13 juillet dernier à Baléré dans la province du Gourma ont été libérées par leurs ravisseurs qui ont gardé le 6e. Les terroristes exigent d'abord que le fils de celui qui est toujours détenu quitte les rangs des VDP. Chalda nous en parle.
5 des 6 personnes enlevées le mercredi 13 juillet 2022 à Baléré, dans la province du Gourma, ont été libérées par leurs ravisseurs qui ont gardé le 6e, exigeant d'abord que son fils quitte les rangs des VDP. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, qui a révélé l'information, parmi les kidnappés, 5 sont maintenant libres de leur mouvement depuis le dimanche 17 juillet 2022. Toutefois, les ravisseurs ont posé des exigences avant de libérer le 6e, indique l'agence qui poursuit. Ils veulent que son fils quitte les rangs des volontaires pour la défense de la patrie VDP et qu'il leur remette son matériel de défense. Pour l'heure, l'agence dit ne pas savoir si le présumé VDP a accédé aux requêtes des agresseurs. Un groupe d'individus armés avec à leur tête des femmes avait enlevé le mercredi 13 juillet dernier 6 hommes au marché de Baléré, localité située entre Fadangourma et Diabo dans la région de l'Est.
Et si l'insécurité plonge plus d'un dans l'amertume, Monique Kam, candidate malheureuse à la présidentielle 2020, est plutôt penchée à suivre des propos tenus par l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Elle exige après ses propos tenus par l'ambassadeur, son départ immédiat et sans condition. Elle projette une marche suivie d'un sitting devant l'ambassade de France à partir du vendredi 12 août à 14h, renouvelable tous les vendredis jusqu'au départ de l'ambassadeur en question. Lamine Traoré nous en parle.
Des décisions de Monique Yelika motivées suite aux propos de l'ambassadeur de France au Burkina le 14 juillet dernier lors de la commémoration de la fête nationale française. Selon la candidate malheureuse Luc Alad, ambassadeur de France au Burkina Faso n'a pas manqué l'occasion de frustrer davantage le peuple burkinabé avec des propos discourtois, orduriers et anti-diplomatiques. « Je n'imagine pas l'ambassadeur du Burkina Faso en France tenir un tel langage contre le peuple français sans que Kossiam ne soit appelé et réprimandé », poursuit-elle. « Monsieur Luc Alad s'est trompé d'époque », affirme Madame Kam. « Nous, peuple digne du Burkina Faso, nous, jeunesse burkinabé, qui avons encore une once de fierté, un soupçon de patriotisme et de dignité. Nous annonçons une marche suivie d'un sitting devant l'ambassade de France à partir du vendredi 12 août à 14h, renouvelable tous les vendredis jusqu'au départ de cet ambassadeur. Nous sommes dorénavant des tarots et plus jamais des patates », a déclaré la présidente du MRB, le mouvement pour la renaissance du Burkina, qui dit personnellement avoir reçu beaucoup de menaces. « Même ma famille me demande de quitter la scène politique car elle a peur pour ma vie », affirme-t-elle. Comment me taire face au risque de la disparition de mon pays? Comment me taire face à cet oppresseur que j'ai vu vaincre au Mali? Comment être poltronne face à l'oppresseur qui vient me dicter sa loi dans ma propre maison? S'interroge Monique Kam. Pour moi, être une personnalité politique et se taire face à la situation du Burkina actuel, c'est être tout sauf une personnalité politique. Je refuse de transférer mes combats d'aujourd'hui à mes enfants de demain, a indiqué celle qui s'est fait appeler la Yenenga de l'éducation. Les diplomates français s'en est pris à certains internautes qui accusent sans preuve son pays engagé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel à la commémoration de la fête nationale française le 14 juillet dernier. Je regrette que les réseaux sociaux soient devenus à bien des égards des idiots utiles, la caisse de résonance de ceux et celles qui, aveuglés par une haine absurde, nous accusent sans preuve aucune de jouer un double jeu, de vouloir exploiter les richesses du Burkina Faso ou pire, encore d'armer les terroristes, avait-il déclaré.
La 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou va bel et bien se tenir du 25 février au 4 mars 2023. Le thème retenu pour l'année 2023 est « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Le comité d'organisation du festival a donné hier, lors d'une conférence de presse, l'assurance de la tenue effective de cette édition. Il en a décliné les différentes innovations prévues. Les explications avec Valérie Traoré et Abdoul Fattah Tiemtouré.
Le FESPACO aura bel et bien lieu malgré le contexte sécuritaire actuel au Burkina. À 7 mois de la tenue de la 28e édition du rendez-vous des acteurs du 7e art africain, le comité d'organisation présidé par la ministre de la Culture a tenu à rassurer l'opinion. Valérie Kabouré.
Notre pays traverse certes des moments difficiles avec les situations sécuritaires, sanitaires et socio-économiques que vous connaissez. Cependant, je puis vous assurer que le Burkina, de par ses valeurs de détermination, de courage, de ténacité et d'intégrité, mettra tout en œuvre pour offrir une fois de plus aux professionnels du cinéma ainsi qu'aux cinéphiles cet espace de rencontre et d'échange pour le développement de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel.
Des innovations sont annoncées pour cette 28e cuvée du FESPACO. On note par exemple la création d'une section réservée au Burkina Faso. Alex Moussa Sawadogo, délégué général du FESPACO.
Innover avec des choses qui pourront s'adapter avec les besoins ou les aspirations des professionnels. Donc nous allons consolider ces acquis-là, les permettre d'être plus visibles au niveau des professionnels, les permettre aussi à ces professionnels de pouvoir en profiter et de pouvoir donner plus de contenu à ces initiatives-là. Mais bien sûr, pour l'édition 2023, nous aurons le marché de coproduction dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est très important sur le plan disons, économique et professionnel pour les hommes de cinéma. Et nous avons bien sûr aussi cette porte ouverte que nous voulons dynamiser, et si tout va bien, les plateformes que nous voulons inviter au niveau du FESPACO, et pour que les producteurs, les réalisateurs puissent aussi proposer leur film.
À cette conférence de presse, le comité de sélection pour cette édition a été dévoilé. Pour le FESPACO 2023, la sélection officielle a enregistré 1132 films inscrits, dont 102 films burkinabés avec 409 séances de projection prévues à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Il se déroulera du 25 février au 4 mars 2023 autour du thème « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ».
Direction Kudugu, améliorer la communication dans le milieu médical en période de crise sanitaire et les dispositions à prendre pour donner à temps la vraie information aux populations. Ce sont ces rudiments que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, offre à des cadres du ministère de la Santé à Kudugu. Des détails avec Sabuna Ouedraogo.
Cette rencontre de Kudugu va permettre aux différents responsables de certaines structures du ministère de la Santé de parler le même langage pendant une crise sanitaire afin de rassurer les populations. Valérie Kaboré, ministre en charge de la communication.
Quand on doit rentrer dans un processus ou vulgariser une connaissance du milieu médical, il y a un savant dosage de prise de parole, de technique, et il faut le convenir ensemble entre spécialistes. Et je crois que l'OMS a bien fait de venir appuyer le ministère de la Santé.
L'OMS, justement, reconnaît qu'en cas d'épidémie, de crise sanitaire, la mise en place d'un mécanisme de riposte et la disponibilité des ressources peut prendre du temps. Alors, dans ce cas...
L'élément le plus important qui soit disponible pour la population, c'est l'information.
Docteur Seydou Koulibaly, représentant de l'OMS par intérim au Burkina Faso.
Lorsqu'il y a la bonne information... Lorsque les acteurs sont suffisamment capacités, ces acteurs peuvent distiller une information qui permette à la population de prendre des dispositions pour ne serait-ce que mitiguer le risque.
Les dites informations doivent être fiables et données par des spécialistes pour faire barrage aux fausses nouvelles qui sont déversées parfois en période de crise sur le net. Valérie Kaboré.
La communication d'une manière générale même doit être organisée, à plus forte raison en période de crise. Quand il y a crise, il y a vraiment beaucoup d'attention à mener pour ne pas dérouter les patients, pour ne pas dérouter même le simple public.
Après cette formation de Kudugu, l'OMS a prévu outiller dans les prochains jours d'autres acteurs du ministère de l'hygiène publique sur des aspects de la communication sanitaire. Sabuna Ouedraogo, Kudugu, Radio Omega.
Et nous nous rendons à l'université Joseph Kizerbo où un hommage a été rendu au professeur Fatoumata Badini, professeur titulaire de sociologie à l'université Joseph Kizerbo. Donc, un hommage rendu par le laboratoire Genre et Développement à l'occasion donc de sa prise de retraite après avoir passé pratiquement une trentaine d'années donc dans l'enseignement. Cérémonie d'hommage qui s'est tenue lundi dernier au sein de la dite université. Jean-Paul Ouedraogo.
Après 36 ans de bon et loyaux services pour le rayonnement de la sociologie et des études de genre au Burkina, professeur Fatoumata Badini Nekinda est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Cette journée d'hommage initiée par le département de sociologie de l'université Joseph Kizerbo s'est donc voulue une occasion pour saluer le parcours et l'œuvre de celle qui est considérée comme une pionnière et une référence aussi bien sur le plan national qu'international. Professeur Valérie Rwamba Ouedraogo, responsable du laboratoire Genre et Développement.
Professeur Badini Kinda, elle a rendu de grands services au département à travers son engagement pour un enseignement de qualité, pour qu'elle sache qu'elle est une icône pour nous, pour qu'elle sache toute l'immensité de son travail. Elle a su en fait partager avec plusieurs générations sa passion pour la sociologie et sa passion surtout pour les études de genre. Donc, à son départ à la retraite, nous saisissons donc l'occasion pour magnifier cette œuvre scientifique-là et surtout pour lui témoigner toute la reconnaissance de plusieurs générations qui l'ont eu comme modèle.
Des mots de félicitations et de reconnaissance du monde de la sociologie et de la recherche accueillis avec joie et émotion par la célébrée du jour, Fatoumata Badini Nekinda.
Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment... le sentiment de joie face à cette reconnaissance que je vis aujourd'hui. Vraiment, c'est une grande surprise que les organisateurs de cette cérémonie m'ont réservée. Donc, j'ai des sentiments de joie, de satisfaction et de savoir effectivement que la trentaine d'années que j'ai passées à l'université a servi à quelque chose.
Retraite méritée, oui, mais pas question de fermer la porte à la recherche ni à la formation. Professeur Fatoumata Badini Kinda s'engage à maintenir son engagement dans les domaines qui rejoignent ses centres d'intérêt. Cette journée d'hommage a été marquée par une conférence publique autour du thème « Genre et sexualité ».
Hors de nos frontières, les inondations au Niger ont causé la mort d'une dizaine de personnes et fait plus de 16 000 sinistrés. Tel est le dernier bilan dressé par la Direction générale de la protection civile. Des communes de plusieurs régions sont touchées par les inondations. Les régions les plus touchées donc sont celles de Zende, Tillabéri, Maradi ainsi que Diffa et Tawa. Et puis, arrestation de 49 soldats ivoiriens au Mali. Le procureur général près la cour d'appel de Bamako ouvre une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur l'affaire donc des 49 soldats ivoiriens arrêtés. C'était le dimanche 10 juillet dernier. Et sur le sujet, nous recevons incessamment le professeur Ousseni Ili, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara, et se prononce sur la question.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité donc de cette édition, qui n'est autre que le professeur Ousseni Ili, il donne sa lecture sur la crise née de l'arrestation des 49 militaires ivoiriens au Mali. Le professeur Ili estime que l'hypothèse des mercenaires avancés par Bamako pour justifier la détention des militaires ivoiriens est difficilement soutenable. Cependant, il dit être convaincu qu'une issue heureuse sera trouvée à ce dossier, d'autant plus qu'aucun des deux pays n'a intérêt, selon lui, à ce que la crise s'enlise. Ses propos ont été recueillis par Khaled Ouedraogo.
Bonjour professeur Ili.
Oui, bonjour.
Vous le savez, 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés le 10 juillet dernier à Bamako. Ces derniers sont présentés par les autorités maliennes comme des mercenaires. La Côte d'Ivoire, elle, soutient que ces soldats font partie de la force de soutien à l'amunissement. Ce qui était présenté comme un simple malentendu au départ est en train de virer en crise diplomatique. Quelle lecture vous faites de cette actualité à la lumière des différentes déclarations des parties impliquées?
Les deux parties ont des versions différentes. Les autorités maliennes soutenant qu'il s'agit de mercenaires, les autorités ivoiriennes soutenant tout à fait le contraire. Les Nations Unies également, dans un premier temps, n'ayant pas pu confirmer qu'il s'agissait des soldats de l'AMINUSMA, même s'ils sont revenus un peu en arrière. Personnellement, je ne crois pas à l'hypothèse de mercenaires parce que ça me semble assez gros pour un État comme la Côte d'Ivoire d'envoyer des mercenaires de cette sorte-là au Mali. Peut-être qu'il y a un problème administratif qui n'a pas été bien géré, mais personnellement, je ne crois pas vraiment à l'hypothèse de mercenaires.
Pour beaucoup, cette affaire vient mettre à nu la tension qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Mali, surtout que le président ivoirien est présenté par les autorités de la transition comme un des artisans des sanctions économiques prises contre leur pays.
Oui, je pense que ça a dû certainement jouer, hein, je pense, parce que je suis sûr que les autorités maliennes savent aussi que véritablement il ne s'agit pas de mercenaires. Mais ils saisissent là l'occasion, puisque comme je l'ai dit, certainement qu'il y a eu un problème administratif, un problème de coordination dans le déploiement de ces soldats-là. Donc, ils en ont saisi l'occasion pour régler un petit peu leur compte avec la Côte d'Ivoire, qui, comme vous le dites si bien, a été l'un des acteurs majeurs des sanctions aussi bien individuelles que économiques et financières qui frappent le Mali. Donc je pense que pour le Mali, c'est une occasion pour un peu endetter entre guillemets la Côte d'Ivoire pour son comportement dans les sanctions. Et si on ajoute à cela le fait que la Côte d'Ivoire est un allié quasi indéfectible de la France, alors qu'on sait qu'aujourd'hui il y a des bruits entre le Mali, les autorités actuelles maliennes et puis la France. L'un dans l'autre, ça fait que c'est une occasion, j'allais dire belle, entre guillemets, pour les autorités maliennes de régler un peu leur compte avec la Côte d'Ivoire.
Après avoir accepté la médiation proposée par le président togolais, le gouvernement malien a décidé de transmettre le dossier des 49 militaires ivoiriens aux autorités judiciaires compétentes. On a comme l'impression que Bamako souffle le chaud et le froid.
Oui, je pense qu'ils vont faire traîner l'affaire aussi longtemps que ça leur permet d'exercer cette pression sur la Côte d'Ivoire, mais ils finiront par la régler à l'amiable.
Dans la foulée, les autorités maliennes ont également annoncé la suspension de toutes les rotations des contingents militaires et policiers de l'AMINUSMA. Est-ce qu'au final, ce n'est pas l'objectif également recherché par Bamako, faire partie de l'AMINUSMA, comme cela a été le cas avec la force Barkhane?
Oui, vous vous rappelez très bien que lors du renouvellement de l'AMINUSMA, les autorités maliennes n'étaient pas tout à fait d'accord avec certaines dispositions du mandat, notamment la libre circulation, la liberté de mouvement donc de ces soldats-là. Mais elles n'avaient pas pu bloquer cela, puisque la décision était prise dans le cadre des Nations Unies. Et donc, justement, cette affaire peut être effectivement l'occasion pour les autorités maliennes de revenir sur cette question-là. Et comme les Nations Unies n'ont pas pu être de manière très claire dans cette affaire, ça donne l'occasion effectivement aux autorités de Bamako de profiter, revenir donc sur cet accord, cette présence de l'administration, notamment sur la question de la liberté de circulation qui a été réaffirmée à travers le renouvellement du mandat.
Alors, professeur, comment vous entrevoyez la suite de cette crise?
Alors, comme je l'ai dit, je pense qu'aucun des deux États n'a intérêt à l'escalade, puisque vous savez que les deux pays sont membres de la CEDEAO, ils partagent une frontière importante, ils ont également des communautés qui vivent de part et d'autre, et surtout pour les autorités maliennes, je ne pense pas qu'elles ont intérêt à ce que cette crise dure, puisque d'autant plus que elles ont déjà une crise très difficile, sévère à l'interne à gérer. Donc moi je pense que à partir du moment où il y a un médiateur qui a été saisi, qui est le Togo, je pense que cette affaire connaîtra un dénouement, en tout cas dans un délai plus ou moins long. Hein. Mais en tout cas, je pense que l'escalade n'arrange personne et je pense que ça va finir par se régler.
Merci professeur.
Je vous en prie.
C'était l'invité de la rédaction.
À l'instant, notre invité, le professeur Ousseni Ili, enseignant-chercheur à l'Université Thomas à Sankara. Et c'est ici que nous référons à ce journal réalisé par Edwige Tsenrebegou. Au micro, je suis Denis Zungrana. Ce fut un plaisir de vous avoir présenté cette édition. Et nous référons avec ce proverbe: un coup de poing tue le hérisson, mais la main n'ose pas. Excellente journée.
Radio Omega, l'info en direct.